Radio Campus Paris.
Vous connaissez Claude Barthelone ?
C'est un réalisateur.
Je le connais pas.
Claude Barthelone. Ça me dit vaguement quelque chose, Barthelone. Un intellectuel, pas un artiste.
Un rocker, non ?
Un membre du gouvernement.
Ah oui, je connais Claude Barthelone. C'est le ministre de l'Intérieur, peut-être ? Quelque chose comme ça.
Claude Barthelone, bah oui, je vois très bien qui c'est. Il est président de l'Assemblée, non ? Il se présente au régional, oui.
Bon courage, parce qu'il doit être loin du compte. Hein.
Ça rend bien du passe.
Bah, il tente sa chance et mon Dieu, je vous souhaite bonne chance.
Ça vous évoque quoi le Parti Socialiste là ?
Ça m'évoque un mode de vie à une époque et puis maintenant, ils foutent tout en l'air quoi. Et tout ça parce que soi-disant, il faut des emplois et de l'argent.
Au Parti Socialiste, hein, et l'image que j'en ai, c'est une équipe en échec.
J'ai l'impression qu'on vote plus pour le moins pire que celui pour lequel on a des convictions vraiment. Mais...
Je votais à gauche et je sais plus où voter, d'ailleurs je vote plus.
On a toujours les mêmes problèmes avec les mêmes propos.
Ça fait pas le vrai job. Le vrai job qui est de parler des vraies questions et d'essayer de construire quoi. Donc ça, ils l'ont pas fait.
La politique actuelle, ça me dégoûte vraiment. Parce que la droite fait de la gauche fait de la droite. Du coup, là, je sais plus quoi faire du tout.
Si vous ne savez pas quoi faire, eh bien c'est très simple. Écoutez, Radio Campus Paris, on interview pour vous depuis le début de la campagne l'ensemble des partis, des têtes de liste pour les élections régionales en Ile-de-France. Et ce soir, on clôture notre tour des régionales en recevant une représentante du Parti Socialiste, Nadège Azaz. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Alors pour être précis, vous êtes tête de liste en Haute-Seine, donc, et on vous reçoit donc pour parler au nom de Claude Barthelone. Avec moi également en studio, Loïc Thibault de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors on va parler de votre bilan à la région, de votre programme bien sûr aussi. Mais tout d'abord, vous êtes ici Madame Azaz pour parler au nom de Claude Barthelone. En début de campagne, Claude Barthelone, avait martelé « Ma priorité, ce sont les jeunes ». Alors première question, Radio Campus est par définition une radio jeune. Comment est-ce que vous expliquez que Claude Barthelone ait refusé toutes nos demandes d'interview ?
Alors, je ne sais pas effectivement si Claude Barthelone a refusé toutes vos demandes d'interview. En tout cas, ce que je sais évidemment, c'est qu'il s'excuse de ne pas pouvoir avoir pu répondre à votre invitation, qu'il est effectivement dans une phase de campagne régionale qui l'occupe beaucoup. Il est sur une campagne de terrain. Vous savez que nous avons connu aussi une interruption de la campagne depuis...
On va en parler tout de suite. Mais donc ça veut dire que si on réinvite Claude Barthelone, il pourra venir à l'antenne de Campus
Paris.
Si
vous réinvitez Claude Barthelone, il viendra à l'antenne de Radio Campus. Sa priorité, ça reste évidemment la jeunesse et leur place, enfin la place des jeunes en Ile-de-France. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, ce sera avec un très grand plaisir que Claude Barthelone se joindra à vous pour une discussion, et je l'espère en tant que président de région.
Ah bah super. Bon, ben dans ce cas-là, le sujet est clos. Alors, Claude Barthelone avait suspendu, vous venez de le dire, sa campagne le 13 novembre dernier pour remplir pleinement son rôle de président de l'Assemblée nationale. Il a repris sa campagne aujourd'hui en publiant une lettre dans laquelle il appelle chacun à, je cite, « exercer son droit de vote contre la barbarie ». Alors, est-ce que Madame Azaz, est-ce que cette campagne aujourd'hui, elle ne devient pas un peu nationale, peut-être au détriment de la région ?
Alors, je crois qu'il faut commencer de toute façon par expliquer la raison pour laquelle Claude Barthelone, dès le soir de ces terribles événements, a souhaité interrompre sa campagne. C'est évidemment d'abord pour respecter une forme de décence par rapport aux événements qui se déroulaient de manière dramatique sur le territoire francilien. Dans un second temps, il a été en quelque sorte absorbé aussi par son rôle institutionnel, puisqu'il est quatrième personnage de l'État, il est président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu, face effectivement à cette tentative de chaos, la première réponse de l'État, ça a été une réponse juridique, et ça a été...
Je vous dis ça parce que durant le même temps, durant la même période, enfin en tout cas quelques jours après, les autres candidats ont repris campagne. Et aujourd'hui, dans les sondages, Claude Barthelone est quand même vraiment à la traîne, et votre liste est à la traîne.
Ça a été une réponse avant tout juridique, et ce qui a été décidé par le président Hollande, conformément à ce que lui permet la Constitution, ça a été de réunir le Congrès. Le Congrès est présidé par le président de l'Assemblée nationale. Il y avait donc un rôle institutionnel, un rôle de représentation, et encore une fois, il était compliqué de retomber, en fait, si vous voulez, dans des affrontements partisans, là où nous étions en train de pleurer nos morts, là où... il fallait aussi assurer une forme de suivi et de continuité de l'État, là où il fallait être au plus proche des familles des victimes. Je crois que pas un des franciliens n'a pas été touché de manière collatérale, directement ou indirectement, par ce qui s'est passé. Enfin, 130 morts, oui, quand il parle effectivement de barbarie, des gens qui, un soir après le travail, se retrouvent pour boire un verre, qui vont écouter de la musique, qui souhaitent aller voir un match...
Attendez, parce que juste à celui-là, je pense que Loïc a justement une question sur...
De foot
Mais alors justement, Claude Bartolone a assumé sa casquette de président de l'Assemblée nationale, mais du coup, il a dû interrompre, et on comprend dans ces conditions,
c'est
sa campagne.
C'est son rôle, c'était son devoir.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû justement quitter son poste de président de l'Assemblée nationale avant de s'engager dans une campagne pour les régionales ?
Alors, il avait de toute façon mis en suspens son rôle de représentation au sein de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, il ne présidait plus les questions au gouvernement, qui sont des instants effectivement de représentation. Néanmoins, et je crois que c'est normal, à circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles, il est le quatrième personnage de l'État, il est le président de l'Assemblée nationale, il s'est engagé dans cette campagne.
Donc il n'aurait pas dû
démissionner. Avec le volontarisme, absolument pas. D'accord. Avec le volontarisme politique qu'on
mais
lui
est-ce
connaît.
Mais du coup, on a l'impression qu'il y a une image un peu décalée. On a l'impression qu'il garde son poste de président de l'Assemblée nationale au cas où il ne serait
en
pas
l'état,
élu.
En l'état, puisqu'il s'est engagé, s'il devient président du Conseil régional, à quitter, évidemment,
son rôle. Oui, mais il y a quand même un décalage. On a l'impression que s'il reste président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il ne pense pas qu'il sera élu, donc il sera président de l'Assemblée nationale
après. Absolument pas. C'est ce que je vous ai expliqué. À circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles. Vous savez, Claude Bartolone, il était au Stade de France le soir où il y a eu cette attaque, le 13. Il était dans la... Vous l'avez vu, très
comme
certainement.
Comme 80 000 spectateurs.
Il était, bien sûr, comme 80 000 spectateurs. Il était dans la tribune présidentielle et il a assisté à ces événements. Très rapidement, il a été mobilisé parce que c'est aussi la continuité de l'État. Et quand on a 130 personnes qui sont tuées, quand on a effectivement ce risque de chaos, il faut que les institutions soient immédiatement mobilisées, au même titre qu'ont pu l'être d'ailleurs ensuite ceux qui représentent nos institutions, c'est-à-dire les fonctionnaires de police, tout le corps médical, et puis tout ce qui a suivi ensuite avec le personnel enseignant, etc., qui a été en capacité de
Donc
verbaliser.
Il fallait vraiment un engagement de tout le monde.
Il fallait un engagement, et surtout l'unité de l'État. C'était important.
En parlant d'engagement, on va parler du coup de votre programme, du programme de votre liste, Madame Azaz. Alors, votre programme, il est assez lourd quand même. Il comporte pas moins de 160 propositions pour l'Île-de-France. Il fait 156 pages. C'est plus que quasiment tous les programmes des autres listes de réunies. Alors, peut-être juste avant, peut-être question de forme, mais pourquoi un programme aussi gros ? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de ne pas être lu, du coup, d'avoir autant de propositions ? C'est important de détailler autant ?
Alors, c'était important, effectivement, de détailler. Puisqu'il y a une volonté en fait de transparence sur ce que nous allons mettre en œuvre si Claude Bartolone devient président de région.
Les 160 mesures, l'idée c'est vraiment que elles soient, c'est des engagements, ils seront respectés.
Ce sont des engagements qui sont des engagements pragmatiques, qui sont réalisables. Et effectivement, enfin, il y a quand même une récurrence, hein, si vous voulez, en fait, hein, au niveau en fait de ce
les
de
différentes
ce programme.
Choses se recoupent.
Tout à fait.
Elles s'inscrivent aussi dans la continuité de ce qui a été fait auparavant.
Dans la continuité de ce qui a été fait auparavant par rapport au bilan.
Par rapport au bilan,
bien
exactement.
Sûr. Alors évidemment, puisque la région,
c'est un complément.
La région est actuellement à gauche, nous allons effectivement continuer en termes de volontarisme ce qui a été entrepris, puisque la région à gauche a permis à l'Île-de-France d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Mais par contre, là où il faut accélérer eh bien, on va accélérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux-semblants. On ne va pas être sur une forme de continuité avec des acquis,
d'accord. Encore une alors, fois. Justement, parlons, pour être concret, du coup, maintenant, parlons transport, si vous le voulez bien. Oui.
Alors, c'est votre proposition numéro 1, rendre les métros fonctionnels 24 heures sur 24, et ça, en 9 ans. Selon Jean-Paul Luchon, ouvrir le métro une heure de plus par nuit, ça coûterait 40 millions d'euros. Cet argent, où c'est que vous allez pouvoir le trouver ?
Alors, sur la première question qui est effectivement le 24 heures sur 24, je crois qu'il est important que la région réponde aussi aux préoccupations des franciliens et que la première compétence de la région que sont les transports s'adapte aussi aux nouveaux modes de vie. Il y a effectivement une vie noctambule à Paris et dans l'ensemble de l'Île-de-France. Nous bénéficions d'un maillage en termes de transport qui est, je crois, le meilleur du monde. Je crois qu'il faut s'en féliciter.
Promettre un 24 heures sur 24, alors, est-ce que c'est réalisable ?
Alors, je vous réponds. On se couche aujourd'hui plus tard en Île-de-France, mais aussi on travaille de manière différente en Île-de-France. Donc, c'est pas simplement se dire que c'est une proposition qui est simplement, qui vise simplement les gens qui sortent, etc., et qui doivent rentrer. C'est aussi s'adapter par rapport au mode de transport dont peuvent avoir besoin les travailleurs. Il s'agit pas d'imposer le 24 heures sur 24 sur toutes les lignes tout de suite. Il s'agit en fait de développer ce qui existe déjà et qui a été mis en place par la région, c'est-à-dire le Noctilien. Le Noctilien doit évoluer. Le Noctilien a 10 ans et le 24 heures sur 24, il va effectivement se mettre en route.
Mais comment on le paye ça ? Comment on le finance ?
Alors, comment on le finance ? De manière globale, il y a eu en fait une budgétisation sur l'ensemble des mesures qui sont encore une fois, je le répète, des mesures pragmatiques.
J'ajoute une chose et je vous laisse terminer, vous promettez 0 euro d'augmentation de la fiscalité pour les contribuables, les entreprises en Île-de-France.
Alors, absolument.
Voilà, donc pas d'augmentation de fiscalité.
La budgétisation en fait de l'ensemble des mesures, c'est 1 milliard 320 millions d'euros, d'accord ?
C'est précis.
Sur l'ensemble du mandat, d'accord ? Ce qui fait à peu près 220 millions d'euros annuels de surcoût par rapport à un budget fixe de la région Île-de-France qui est aujourd'hui de 5 milliards.
Comment est-ce qu'on les trouve à ce moment-là, ces 200 millions ?
Je vous réponds, sur nos 220 millions, vous le savez, il va d'abord, dans un premier temps, y avoir la mise en place d'une écotaxe pour les poids lourds en transit, écotaxe qui devrait rapporter à la région annuellement entre 80 et 100 millions d'euros. Il y a également une réforme qui est prévue de la part de la cotisation sur les valeurs ajoutées qui passera en fait en 2017 de 25 à 50% et qui devrait nous rapporter 400 millions en fait sur l'ensemble de la mandature. Et enfin, vous avez aussi 800 millions d'euros annuels qui sont dus en fait par l'État pour l'entretien notamment des transports que Claude Bartolone s'est engagé de manière volontaire. Et c'est un homme volontaire et qui tient ses promesses.
On voit taper du poing sur la table en même temps.
Absolument, parce que, encore une fois, on peut lui faire confiance et qu'il ira en fait récupérer. Ce sont des mesures qui sont absolument finançables.
D'accord. Donc le budget, du coup, et vous nous le dites, tout ce que vous proposez, les 160 mesures sont budgétées, sont finançables.
Et est-ce qu'on peut trouver quelque part cette budgétisation
Vous pouvez la trouver très certainement sur le programme site, sur une Île-de-France humaine. Absolument, oui. Mais vous pouvez le trouver. Moi, je vous réponds. Et puis vous pouvez le trouver sur une Île-de-France humaine. Enfin, moi, j'ai des articles de presse où Claude Bartolone déploie en fait la budgétisation.
D'accord. Très bien. Alors, je vous propose de parler de jeunesse, on en parlait au début. Parlons des stages, par exemple. Vous proposez une plateforme de stages pour les lycéens. Alors, à droite, Valérie Pécresse propose que chaque subvention de la région soit conditionnée au recrutement d'un jeune en stage ou en alternance. En quoi est-ce que votre mesure est différente ? Est-ce que ce que propose à droite, c'est pas plus efficace ?
Alors,
que simplement une plateforme, ce que vous proposez.
Pourquoi ? Parce que la priorité, en fait, de Claude Bartolone, s'il devient président de région, c'est absolument pas, en fait, de favoriser les stages. Voilà, pourquoi ? Parce que les stages, ce n'est absolument pas de l'emploi durable. Les stages, c'est quand même maintenir c'est maintenir une certaine forme de précarité, et ça ne peut pas être la seule mesure en direction des jeunes. Donc une plateforme où on trouverait en fait des offres de stage qui pourraient répondre à des demandes de manière conjoncturelle, parce qu'on a besoin d'un stage dans le cadre de ses études, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on va mettre,
des principaux accès à l'emploi pour beaucoup de jeunes.
C'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on réussisse à développer, c'est la voie de l'alternance. Ce qu'il faut qu'on réussisse à développer, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, on a quasiment 100 000 apprentis qui sont formés tous les ans sur le territoire francilien grâce à l'action de la région. Donc, ce qu'on veut, c'est poursuivre en fait vers cette voie-là. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on vit, c'est la durabilité de l'emploi. Moi, vous savez, j'ai fait des études de droit, j'ai choisi de me diriger en fait vers des concours administratifs. J'ai beaucoup de mes amis qui ont choisi la voie naturelle, qu'est la carrière, enfin d'épouser la carrière d'avocat. Il n'est pas supportable, si vous voulez, qu'on puisse, parce qu'on est stagiaire, se faire exploiter, avoir exactement les mêmes...
Donc vous n'êtes pas favorable forcément au stage, par contre l'alternance davantage.
Quand il y a besoin, oui. Pourquoi l'alternance est importante ?
J'aimerais passer sur
parce qu'en
autre...
fait, vous formez, en fait, vous formez... Je termine. Vous formez en réalité, vous formez en fait les jeunes, et ils ont ensuite accès de manière naturelle à l'emploi dans l'entreprise, en réalité, qui les forme.
D'accord. Alors, autre sujet à propos des jeunes.
Ça reste du loto.
On vous entend bien. Autre sujet à propos des jeunes, vous proposez la création d'un budget participatif lycéen dans tous les lycées d'Île-de-France. Alors là, même sorte de question, c'est une mesure qui est proposée également par Europe Écologie Les Verts. En quoi est-ce que votre proposition est différente de celle d'Europe Écologie Les Verts ?
La proposition, elle n'est pas forcément différente de celle d'Europe Écologie Les Verts sur le budget participatif.
D'accord.
Je rappelle que nous dirigeons avec beaucoup de cohérence,
Europe Écologie Les Verts, vous étiez en tout cas.
Mais en tout cas, on a vocation. Vous savez qu'on a vocation en fait très certainement au second tour à se rassembler avec Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, Emmanuelle Cosse est actuellement vice-présidente au sein du Conseil régional de l'Île-de-France.
Ça anticipe les questions sur Thibault. On parle logement maintenant avec Loïc.
En 2010, Jean-Paul Huchon assurait sa volonté de créer une, je cite, autorité régionale du logement. Aujourd'hui, où en est cette autorité ?
Alors.
On sait parce que Claude Barthelon a fait la même proposition durant cette campagne.
Il a proposé en fait effectivement une autorité régionale du logement. Donc je ne sais pas où en est celle qui a été prévue par Jean-Paul Huchon. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la volonté de Claude Barthelon, c'est en fait qu'on puisse choisir réellement son logement et non plus le subir. Aujourd'hui, beaucoup trop de jeunes franciliens sont obligés, ce que j'appelle l'expatriation, de choisir comme lieu d'habitation des villes où ils ne souhaiteraient pas, de prime abord, habiter parce qu'ils n'ont pas accès au logement, en fait. Cette autorité régulatrice, elle permettrait en fait d'assurer une répartition cohérente des logements par territoire pour qu'en réalité l'offre réponde à la demande.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 5 ans maintenant, Jean-Paul Huchon fait la même proposition que Claude Barthelon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça serait applicable et pourquoi ça n'a pas été fait dans cette...
Honnêtement, faudrait poser la question à Jean-Paul Huchon sur le fait qu'il n'est pas
de la même majorité.
Mais je suis de la
vous
même...
revendiquez tout je à l'heure suis... le bilan
bien
aussi.
Bien sûr, je revendique le bilan et avec beaucoup de fierté parce qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour les franciliens. Néanmoins, sur le fait que cette autorité de régulation des logements n'ait peut-être pas été suffisamment suivie des faits, en tout cas si ça a été repris dans le programme, c'est que c'était une bonne mesure et c'est qu'on ira au bout.
Et c'est que vous le ferez cette fois-ci.
Oui.
Alors à propos du bilan, toujours sur le logement, vous aviez promis il y a 5 ans, en tout cas la majorité sortante, 70 000 nouveaux logements en plus par an. On en est quand même assez loin aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous refixez un objectif pour la prochaine législature ?
Alors, je crois que...
Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été tenu d'après vous cet objectif-là ?
Ça, encore une fois, je pense que j'ai pas vraiment d'éléments, que je suis en capacité. Vous avez reçu Emmanuelle Cosse il y a pas longtemps, je crois. Alors il aurait fallu peut-être lui poser la question, puisque c'est sa délégation.
On lui a posé la question.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ?
Mais la question principale, c'est de voir vous par rapport à votre programme. Qu'est-ce que vous de nouveaux logements construits, quel est votre objectif pour la prochaine législature ?
En termes de nouveaux logements construits, nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est mettre en place une forme de dispositif incitatif, puisque vous le savez, aujourd'hui, la loi SRU et la loi Duflo posent des obligations en termes de construction de logements sociaux dans les communes notamment, avec cette obligation d'arriver à 25%. Moi, je viens d'un département, les Hauts-de-Seine, où nous avons beaucoup de disparités sur le territoire, avec des villes où vous avez près de 70 à 80% de logements sociaux, là où dans certaines villes, vous atteignez difficilement les 5% de logements sociaux. Donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables, en fait. Personne ne doit avoir, si vous voulez, un monopole en termes de construction de logements sociaux.
Donc sociales. Vous êtes pour la sanction logement, pour les maires qui ne respectent pas la loi.
Absolument. Alors, pour la sanction, je ne sais pas, mais en tout cas pour un dispositif incitatif qui consiste à dire, en réalité, s'il n'y a pas de logements sociaux. En tout cas, si vous ne montrez pas un volontarisme suffisant pour arriver, pour témoigner que vous souhaitez arriver à ces 25%, vous n'aurez plus d'aide régionale.
Mais sur la construction de nouveaux logements ?
Sur la construction, encore une fois, de nouveaux logements, je pense qu'on est vraiment plus, nous, dans, encore une fois, dans un dispositif qui est un dispositif incitatif.
D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va parler maintenant stratégie politique, si vous le voulez bien, avec Thibault.
Et oui, exactement. Donc, tout d'abord, une petite question. Au Parti socialiste, on entend Manuel Valls souvent répéter front républicain, front républicain, front républicain, et même d'alliance dans la région Nord-Picardie pour le premier tour avec les Républicains. Les candidats aussi refusent, bien souvent. Aujourd'hui, le gouvernement est-il encore socialiste ?
Alors, le gouvernement est socialiste, absolument. Sur la question en fait du front républicain, je crois que réellement il faut encore une fois qu'on cesse d'être, vous savez, dans cette espèce du monde tout sondage, enfin où on pense.
Vous revendiquez vous-même des sondages sur Twitter, pas vous-même personnellement, mais
oui,
le Parti socialiste.
Mais bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut dans un premier temps, et voilà, et c'est encore une fois la meilleure réponse dans ces périodes qui sont extrêmement troublées et agitées, il faut qu'on ait en tête que la démocratie, elle s'exprime par le vote des électeurs. Nous ne savons pas à l'heure actuelle ce qui va clairement se passer. Les sondages ont déjà menti. Enfin, il y a déjà eu effectivement des erreurs. On ne peut pas s'engager préalablement sur des fronts républicains, là même où les électeurs n'ont pas encore voté.
Les sondages sont souvent assez proches quand même. Vous-même, sur votre compte Twitter, vous revendiquez 43% le 10 novembre des votes de toute la gauche. Alors, c'est la petite précision, justement, qu'il faut bien voir. Parce que à vous lire, on aurait l'impression que presque le PS serait élu au premier tour. Or, ce n'est pas le cas. Et un récent sondage BFM, je vous le souhaite peut-être, mais écoutez, c'est pas ce qui semble sortir des urnes, puisqu'un sondage BFM Le Parisien du 26 novembre indique que Valérie Pécresse est en tête avec 33%. Et vous êtes au coude à coude avec le Front National à 23%. Donc, vous n'allez pas vous exprimer sur le Front Républicain, mais quelle est votre réponse à la montée du Front National ?
Ma réponse à la montée du Front National, elle est de dire à ce peuple de gauche, à ces humanistes, d'aller voter, de se mobiliser et d'aller voter. Le danger...
c'est suffisant, vous croyez ?
Le danger dans la société actuellement, elle est justement de voir cette montée du FN qui est sur un discours qui est un discours clivant, qui est un discours discriminant, qui est un discours stigmatisant. Valérande Saint-Just a eu des propos, je pense que vous les avez lus, où il était enthousiasmé en fait par la tournure des événements. Enfin, je crois qu'il y a une forme d'indignité dont chaque Français doit réellement prendre conscience. Moi qui suis militante féministe, vous savez, le socialisme est un féminisme. Je crois réellement qu'à l'heure où Marion Maréchal Le Pen est en capacité de vous dire que si elle arrive à la tête de la région PACA, elle va supprimer les aides au planning familial. Le planning familial qui est quand même juste la première association féministe, la première association féministe en termes de droits des femmes, en termes d'accès à l'avortement, etc., en termes de planification familiale.
Je vais devoir vous couper malheureusement parce qu'on arrive au terme de l'émission.
Simplement,
rapidement.
Je dis à ce peuple de gauche, vraiment,
de se mobiliser, d'aller voter.
Mobilisez-vous et allez voter, d'accord, surtout en ces temps actuels.
J'ai une toute dernière question.
C'est la démocratie qui sera la meilleure réponse à l'obscurantisme.
J'ai une toute dernière question. Depuis le début de la campagne, votre candidat Claude Barthelone a refusé en fait tous les débats publics qui devaient normalement l'opposer aux autres têtes de liste en Île-de-France. Est-ce qu'il en acceptera d'ici la fin de la campagne? Est-ce qu'il acceptera les débats de l'entre-deux-tours?
Alors, à votre avis. Claude Barthelone n'a pas refusé tous les débats puisqu'il y avait un débat qui était programmé normalement jeudi. Dans des paroles et des actes.
Mais en l'occurrence, le débat n'a pas eu lieu.
Mais Claude Barthelone a interrompu aussi la campagne des régionales pour les raisons que je vous ai exposées.
Mais avant, il en avait refusé. Est-ce que prochainement, d'ici la fin de la campagne, dans l'entre-deux-tours, il en acceptera?
S'il y a effectivement des débats pertinents qui lui sont proposés, il les acceptera.
D'accord. Bon, bien, merci beaucoup, Nadège Azaz, d'être venue sur au micro de Radio Campus Paris pour nous parler des élections régionales.
Et allez voter.
Radio Campus Paris.